Христос воскрес! Si nous étions dans les pays de l'Est, l'ex-Union soviétique, c'est ainsi qu'on se serait salué en cette période de Pâques. Je vous aurais dit « Christos Vaskres », ça veut dire « Christ est ressuscité », et vous m'auriez répondu, ce que Natacha a répondu instinctivement, « Christ est vraiment ressuscité ». Voistinia Vaskres. Il y avait une fois, dans un de ces pays de l'Est, c'était la période de Pâques, dans un village, un monsieur qui a fait une conférence pour expliquer aux braves villageois que Jésus n'avait jamais existé, qu'il n'a pas pu être né d'une vierge, qu'il n'a pas pu faire des miracles, qu'il n'a pas pu ressusciter, bref, en un mot, qu'en fait tout cela c'était des foutaises, et que de toute façon Dieu n'existait pas, que ce n'était pas la peine de s'intéresser à lui puisqu'il n'y avait rien. Et à la fin de sa conférence, qui a duré un bon moment, il a demandé s'il y avait des questions. Personne n'a répondu. Tout le monde était un peu subjugué. Un homme s'est levé. Il a simplement dit « Christos Vaskres ». Et tout le monde a répondu « Voistinia Vaskres ». Oui, Christ est ressuscité. Voilà la grande nouvelle de Pâques. Alors je vous invite à lire dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Au premier chapitre, nous lirons tout le chapitre, les 20 versets de ce premier chapitre de l'Apocalypse de Jean. Je lis dans la Bible dite à la colombe, c'est peut-être pas forcément celle que vous avez sous les yeux, mais comme vous pourrez le constater, il n'y a pas grande différence. Apocalypse de Jean, chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncer la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie mineure, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Jean a écrit et nous avons lu ce qu'il a écrit, pratiquement 2000 ou 1900 ans après. Pour bien des gens d'aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse est synonyme de catastrophe, fin du monde. Mais ce n'est pas le message essentiel du livre qui commence par le mot « révélation », c'est-à-dire dévoilement de la personne de Jésus. Et cette révélation est confiée à l'apôtre Jean qui était déporté sur l'île de Patmos, dans la mer Égée. On peut encore y aller aujourd'hui. J'ai regardé sur Internet, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait, je crois, 24 hôtels de luxe qui peuvent vous y accueillir. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de l'apôtre Jean, ni pour lui-même qui était déporté. Il était en raison de sa foi. Selon ses propres mots, à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire de sa fidélité à la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus, c'est-à-dire du témoignage qu'il rendait à Jésus. De l'apôtre Jean, nous avons l'évangile de Jean. 3 lettres, 3 petites lettres, des épîtres. L'évangile nous parle de Jésus quand il était sur la terre, dans cette région qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Les lettres parlent de Jésus dans le cœur de ceux qui l'ont reçu comme leur sauveur et leur Seigneur. Dans l'Apocalypse, Jésus prend une dimension cosmique. Il est le maître incontesté. Il est le Seigneur Pantocrator. Alors voilà un mot bizarre. Ce mot rime avec Terminator, Escalator, ou je sais trop quoi encore. Il veut dire maître de tout, tout puissant. En fait, c'est une expression, le Christ Pantocrator, qu'on a donnée aux représentations dans l'art chrétien d'un Christ glorieux. Non pas ou non plus un Christ humilié comme le petit enfant dans le berceau, dans la crèche, ou encore, comme on a vu tout à l'heure, le Christ dénudé en croix. Non, ici c'est le Christ glorieux, en gloire. Le Christ Pantocrator. Lui qui est vainqueur de tous ses ennemis, y compris de la mort. Car la mort est présentée dans la Bible comme un ennemi redoutable, contre lequel on lutte, mais on ne peut rien. En fin de compte, c'est la mort qui reste victorieuse, même si on arrive à la reculer. Elle a toujours le dernier mot, mais Jésus l'a vaincue. Et c'est bien lui qui a le dernier mot sur la mort. Et c'est cela, la grande nouvelle de Pâques. Alors le livre de l'Apocalypse est avant tout un message d'espérance, d'encouragement adressé à ceux qui, comme Jean, passent par des épreuves ou des persécutions. Le temps est proche, dit Jésus. Voici ce qui doit arriver bientôt. Alors de quel temps s'agit-il? Celui qui englobe l'histoire humaine depuis l'ascension de Jésus jusqu'à son glorieux retour, qui sera le signal de l'installation de la nouvelle terre, des nouveaux cieux, ou dit aussi l'apôtre Jean à la fin de son Apocalypse où la justice habitera. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas la justice, mais dans le royaume de Dieu, cette justice habitera. C'est un temps où le mal sévit dans toute son horreur, avec ses guerres, avec ses génocides, avec ses maladies, avec ses désastres écologiques, avec la mort. C'est un temps où l'Évangile est proclamé pour que les gens se repentent de leurs péchés, se tournent vers le Seigneur qui s'est révélé aux hommes du monde entier. Un temps où se côtoie la toute-puissance d'un Jésus Pantocrator et la faiblesse de son Église ou de ses frères livrés aux attaques de Satan. Mais qui est donc ce Jésus ressuscité? Il est présenté dans ce chapitre que nous avons lu comme Dieu lui-même, avec les attributs de Dieu et les pouvoirs de Dieu. Et les descriptions que nous avons lues de lui au verset 12 à 17 le présentent comme quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Étrange cette expression, fils d'homme, ou bien fils de l'homme. C'est une expression que Jésus aimait particulièrement lorsqu'il parlait de lui. Il parlait parfois de lui en disant le fils de l'homme. Cette expression n'est pas anodine pour un lecteur attentif de l'Ancien Testament, car il s'agit d'une reprise, d'une vision que le prophète Daniel dans l'Ancien Testament a reçue de Dieu et dont il fait part dans son livre, le livre de Daniel, où il est question d'un fils d'homme qui vient avec les nuées du ciel. Cet homme que rencontre Jean a la description, il faut bien le dire, effrayante. Comment peut-on avoir des yeux comme une flamme de feu, des pieds comme du bronze rougi au feu, au four? Une voix comme celle des grandes eaux? Comment peut-on avoir une tête blanche comme de la laine blanche, blanche comme neige? Une lumière aveuglante. Tout cela, cette description ici, combine la description de Dieu qui apparaît sous la forme, d'après Daniel, de l'Ancien des Jours dans sa vision à lui, et en même temps de ce Fils d'homme dont, dit-il, la domination durera toujours et dont le royaume ne sera jamais détruit. Oui, ce Jésus Pantocrator est bien ce personnage entrevu par le prophète Daniel au cours, lui aussi, de sa déportation. Et Jésus, d'après cette description et d'après ce qu'il en est dit ici, est à la fois homme et Dieu. Et comme Daniel devant une vision si insoutenable, Jean tombe à terre comme mort. Curieux, lui qui connaissait si intimement Jésus, qui faisait partie de ses proches, Pierre, Jacques et Jean, lui dont il est dit qu'il était le disciple que Jésus aimait particulièrement, tombe à ses pieds comme mort, et Jésus doit lui tendre la main pour le relever avec ses paroles « Sois sans crainte, n'aie pas peur ». Jésus ressuscité, eh bien ce Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, puisque ce texte a été écrit en grec, le premier et le dernier, c'est-à-dire qu'en dehors de lui, rien n'existe, rien ne vaut la peine d'exister. Et Jean a une telle conviction au sujet de la divinité de Jésus qu'il entame ce qu'on appelle, voici encore un autre mot barbare, d'origine grecque celui-ci, une doxologie. Alors une doxologie, c'est une louange adressée à Dieu. Et que relève-t-il particulièrement dans sa doxologie? Que Jésus nous aime. À celui qui nous aime. C'est extraordinaire. Il loue Dieu et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de dire à celui qui nous aime. Et ensuite, qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume ou un peuple de rois et donc de reines, des prêtres, hommes et femmes, pas seulement les hommes, de prêtres, pour Dieu son Père, et qui a la gloire et le pouvoir à tout jamais. Rien que cela, oui, voilà ce Jésus qui nous aime et qui s'est livré pour nous, par amour pour nous. Il nous a délivrés de nos péchés pour que nous puissions faire partie de son royaume éternel. Ce Jésus qui a le pouvoir à tout jamais nous aime. Et c'est par son sang, c'est-à-dire par sa mort sur la croix, que nous pouvons obtenir la purification de nos péchés. Et puis ce Jésus Pantocrator, il vient sur les nuées et tous le verront. Tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, comme ceux aussi qui l'ont rejeté, comme ceux même, dit l'apôtre Jean ici, ceux qui l'ont crucifié. Et ceux aussi qui restent indifférents à son appel. Tous, nous verrons, nous serons devant le Christ ressuscité et le Christ glorifié. Jésus a une image forte pour parler de son retour. Elle se trouve dans ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu où il parle de son retour et de la fin des temps. Et il dit ceci en ce qui concerne son retour, parce que certains peuvent penser qu'il peut venir de façon cachée ou de façon, qu'on ne peut pas voir. Il dit « Comme l'éclair qui jaillit au levant se voit jusqu'à son couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Encore une fois, un éclair si lumineux qu'il est éblouissant, que personne ne peut pas le voir. Et cela du levant jusqu'au couchant, c'est-à-dire pour le monde entier. Mais à ce moment-là, lorsque Jésus paraîtra, ce sera trop tard pour se tourner vers lui. Voilà pourquoi l'apôtre Jean reprend une parole du prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, qui mentionne les lamentations, les regrets des peuples de la terre qui n'ont pas fait ce qui plaisait au Seigneur, qui ne se sont pas tournés vers le Seigneur, qui n'ont pas obéi à sa parole, mais qui ont fait n'importe quoi. N'est-ce pas aussi ce qui se trouve dans la vie des hommes qui forment les peuples de la terre ? Je conclus, voici donc la grande nouvelle de Pâques. Christ est ressuscité. Non seulement il est vivant, mais il est glorieux. Il était mort et il est vivant à tout jamais. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que la mort ne peut plus nous enfermer comme des otages. Jésus nous a libérés du pouvoir qu'elle avait de nous retenir. Et pourtant, quand on est mort, on est bien mort. Personne de notre entourage n'a pu se relever de la mort. Bien malheureusement, on aurait bien aimé, mais ce n'est pas possible. Quand on est mort, on est bien mort. Mais Jésus, lui, a eu non seulement le pouvoir de se libérer de la mort, mais il nous donne aussi cette glorieuse espérance. Notre avenir est un avenir glorieux. Et là, il s'adresse avec son livre, et c'est aussi le cas de toute la Bible, à chaque homme, chaque femme du monde entier. Il nous invite à prendre notre place dans son royaume éternel. Mais le voulons-nous ? Ferons-nous partie de ceux qui peuvent dire à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais ? Est-ce là notre témoignage pour Jésus, notre confession de foi? Ou ferons-nous partie de ceux dont il est dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet parce qu'il vient avec les nuées et que tous le verront? Mediapart, ce n'est pas un nom latin ou grec. On a tous entendu parler dernièrement de Mediapart, qui s'est spécialisé dans les révélations politiques et sulfureuses. À cause ou grâce à des investigations poussées de certains journalistes brillants, des hommes politiques ont été pris en faute, des mensonges ont été révélés. Mais nous avons ici, dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, une révélation bien plus importante qui concerne notre vie avec ou sans Dieu. Allons-nous nous laisser convaincre par cette révélation, par Dieu lui-même, par son Esprit qui nous dit « Vous êtes pécheurs ». Et en tant que pécheurs, vous ne pouvez pas entrer dans mon royaume. Il vous faut être pardonné de vos péchés. Jésus est mort pour cela. Il n'est pas resté sur la croix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est vivant à tout jamais. Il veut déployer sa puissance de résurrection en chacun de nous. Un jour, nous serons devant lui. Que nous dira-t-il alors ? Je ne vous ai jamais connu. Ou encore, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Jean l'apôtre fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Ce n'est pas seulement une vision semblable à une hallucination, ça n'a rien à voir. Saisi par l'Esprit, c'est le Seigneur qui lui a donné cette parole pour nous ce matin. Puissions-nous, nous aussi, ce matin, être saisis par l'Esprit en ce jour du Seigneur. Oui, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, et plus particulièrement aujourd'hui, jour de la résurrection de Jésus. Puissions-nous être saisis, convaincus que Jésus est véritablement le Christ glorieux qui veut vivre en chacun de nous pour nous apporter la lumière et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta révélation, celle que nous avons devant nos yeux, celle sans laquelle nous sommes irrémédiablement perdus, car elle nous révèle ce que toi tu as fait pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions vivre éternellement avec toi. Merci d'être le grand vainqueur de la mort qui n'a pas pu te retenir. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Nous n'avons rien mérité, tout est grâce. Et dans les épreuves de la vie, aide-nous à mettre toute notre espérance en toi et de croire que quel que soit le chemin que tu traces devant nous, tu es là, présent, nous ne sommes pas seuls, et que tu nous prépares une place dans ton royaume éternel. Merci pour Pâques, merci pour Jésus, merci pour sa vie dans nos cœurs. Bénis chaque personne ici présente et que chacun puisse se réjouir profondément de ce magnifique jour de Pâques. Au nom de Jésus, amen.